Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débrief.
Il est 8h40 et pour débriefer l'actualité riche, une fois de plus ce matin, nous sommes avec Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc Daniel et Benouda Abdedaïm. Il faut dire que l'actualité est très portée ce matin sur les taux d'intérêt des dettes souveraines qui flambent, les devises aussi qui sont malmenées, notamment la livre sterling, même si elle a repris quelques couleurs ce matin, après avoir frôlé la parité avec le dollar. Un mot donc de cette situation obligataire qui se tend un petit peu partout, Benouda, notamment en Europe, avec les mauvais élèves, les bonnets d'âne que sont le Royaume-Uni, l'Italie et malheureusement la France.
Et alors ce matin, c'est vraiment frappant, c'est vraiment le Royaume-Uni qui est ciblé.
Ouais.
Et on va passer toutes les notes innombrables d'économistes de marché qui prédisent la fin du monde pour le Royaume-Uni, pour nous concentrer sur une interview qu'a donnée un des principaux responsables de la réserve fédérale américaine, le président de la Fed d'Atlanta. Il a donné hier soir une interview au Washington Post où, et c'est extrêmement rare que ce soit ce type d'intervention de la part d'un banquier central d'un grand pays de l'OCDE, a fortiori les États-Unis, qui exprimait une forte préoccupation, a-t-il dit, quant à l'incertitude croissante de l'économie du Royaume-Uni qui pourrait entraîner une plus grande tension économique pour l'Europe et pour les États-Unis. En clair, le président de la réserve fédérale d'Atlanta caractérise le Royaume-Uni comme l'homme malade de l'OCDE qui peut, dans sa chute, entraîner, alors là je tire peut-être sur le fil de son propos, mais ça veut dire cela, l'Europe et les États-Unis, ce qui est assez frappant.
Ah oui.
C'est une telle motion de défiance de la part d'un banquier central américain.
Vous êtes en train de contrarier Jean-Marc Daniel qui ne jure que par le Royaume-Uni, vous le savez, Benouda.
Oui, il n'empêche que qui aime bien, châtie bien, la situation au Royaume-Uni est délicate. Hein. Le Royaume-Uni a déjà connu ce genre de situation. Je rappelle qu'en 1976, le Royaume-Uni était sous tutelle du FMI.
Ben oui.
Et donc,
que Benouda nous a dit il y a quelques semaines déjà qu'on ne pouvait ne pas exclure une nouvelle intervention du FMI.
Absolument. Quand on voit les comptes extérieurs du Royaume-Uni, ils sont dégradés depuis très longtemps. Le Royaume-Uni accumule des déficits de balance des paiements courants. Jusqu'à présent, il a pu se financer pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une sorte de force de la finance britannique, mais qui est en train de s'éroder. Et la deuxième raison, c'est que dans le passé, le Royaume-Uni était assez souvent associé à l'énergie. C'est-à-dire, le Royaume-Uni, c'était du charbon, c'était du pétrole. En 1976, en particulier, une des raisons pour lesquelles Thatcher a pu mener sa politique, c'est qu'elle était à la tête d'une pétromonarchie. Maintenant, le Royaume-Uni n'a plus le prestige financier qu'il a eu et n'a plus la ressource énergétique qu'il avait dans les années 80-90. Donc, le Royaume-Uni est effectivement dans une situation où le message, ça doit être Singapour sur la Tamise, c'est-à-dire une économie tournée vers l'intelligence artificielle, vers la connaissance.
Ouverte fiscalement.
Et ça, c'est pas exactement ce qui se met en place. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a du mal à passer du stade de l'économie de la finance à l'économie de la connaissance.
Mais est-ce qu'on n'aime pas aussi bien dire que ça va très très mal au Royaume-Uni, alors que nous, notre budget en France, il est basé sur 5% de déficit, ce qui n'est pas franchement beaucoup, beaucoup mieux.
Oui, la force que nous avons, nous, c'est qu'il y a des gens qui paient à côté de nous et donc il y a des gens qui paient pour nous. Le véritable enjeu pour nous, c'est de faire en sorte de persuader les pays frugaux qu'on va finir par faire un effort. Je crois qu'ils commencent à se lasser, malgré tout. La première ministre finlandaise qui est rentrée dans l'actualité là, qui est pour sa capacité à danser le rock and roll. Oui, mais enfin, elle est rentrée dans l'actualité française pour ça.
Et hélas,
je suis d'accord avec vous. Hélas, parce qu'elle tient des propos assez structurés, assez intelligents, assez bien vus, dont la cible est essentiellement la France.
Éric Delannoy, Jean-Marc Daniel dit on fait croire aux autres pays qu'on va être un pays frugal, mais en fait on fait semblant.
Alors on fait semblant. Le contexte est un peu compliqué quand même, parce que quand on regarde les trois dernières années, ça a été des années qui étaient extrêmement erratiques en termes de, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, ce sont des chocs extrêmement importants. Quand vous regardez depuis 2017 ce qui se passe, on a quand même été plutôt dans le sens d'une amélioration. On le voit aujourd'hui, le budget 2023 est un budget certes d'équilibriste, bourré d'injonctions contradictoires, mais néanmoins qui part sur des hypothèses de maîtrise. Quand vous regardez l'évolution des dépenses publiques, quand vous regardez l'évolution de la dette, on est sur la volonté de ne pas dégrader les ratios, ouais, enfin, malgré la hausse des dépenses.
Quand vous regardez les déficits structurels, on est très loin de nos engagements européens.
Bien sûr.
Et quand vous regardez les hypothèses de croissance sur lesquelles est fondé le budget,
1%.
C'est pas très réaliste. Bah, déjà, la Banque de France dit entre moins 0,5 et 0,8.
On verra.
Déjà au-dessus. Hein.
Moi, ce que je constate en tant qu'entrepreneur, c'est que je peux vous dire que les entreprises vont très bien, notamment parce qu'elles ont accumulé des réserves considérables depuis ces dernières années. Les bénéfices d'entreprise n'ont jamais été aussi importants depuis 2 ans.
Ouais. Donc vous êtes en train de dire qu'on peut démentir une fois de plus les plus sombres pronostics.
J'aimerais bien qu'on démentisse en permanence. D'abord, les économistes passent leur temps à se tromper, hein, ça c'est quand même l'histoire le montre.
Ah, et ensuite, Jean-Marc.
Et ensuite,
il y a ça, évidemment.
Et ensuite, à chaque fois qu'on fait des prévisions ultra pessimistes, on crée des anticipations autoréalisatrices.
Ouais.
Donc il faut quand même rester, on va dire, sérieux et regarder quels sont les sous-jacents.
Bah oui.
Moi, je reste convaincu que les sous-jacents de l'économie aujourd'hui sont bons et qu'on est sur des aspects conjoncturels qui malheureusement ont tendance à devenir structurels. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'énergie. Mais le conjoncturel n'a jamais été aussi problématique que le structurel, comme on l'a vécu en 2008 notamment.
Ouais. Et là, il est en train de soutenir la théorie des cycles. Il dit que le cycle est bon et malheureusement, il est entravé par la crise de l'énergie et les taux.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. L'enjeu, c'est ce que j'avais dit ici. C'est la prévision de croissance, c'est pas 1%, c'est pas 0,8, c'est pas moins 0,4.
C'est entre moins 4 et plus 4.
C'est moins 4 ou plus 4.
Ce mot est plus en marque maintenant.
C'est-à-dire que, ou bien effectivement, les entreprises sont en capacité de rebondir parce qu'elles ont accumulé effectivement de la trésorerie, parce que leur situation est plutôt assez saine en ce moment, ou bien elles sont obligées d'arrêter, comme on l'a vu avec Duralex, là, qui s'arrête parce que l'énergie est... Et donc on va connaître ce que, à l'époque d'ailleurs, le PDG Duralex avait appelé un confinement énergétique, et ce qui me paraît être une assez bonne vision.
Benaouda.
Pour ce qui concerne la France, je me suis amusé à faire un petit exercice, faire à peu près le tour de tous les quotidiens économiques entre guillemets qui comptent à travers l'Europe, du Financial Times et Le Soleil. Aucun article sur la France. La France est totalement sous le radar. On ne sait ni en bien ni en mal.
Personne n'a regardé le budget, personne n'a regardé
si,
les taux.
Par exemple, le Handelsblatt dit, bon, effectivement, il y a cette projection de croissance qui est un peu optimiste, mais somme toute pas beaucoup plus élevée que celle de l'OCDE. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que les dossiers sont tellement plus graves
ailleurs, en
Italie, au Royaume-Uni, et dans d'autres grandes économies.
On passe sous les radars, quoi.
Que c'est la France, il y a d'autres urgences pour l'instant.
Éric Delannoy.
Oui, c'est très important ce qui vient d'être dit. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, les fondamentaux des entreprises sont bons. On a un rôle de la BCE qui aujourd'hui n'est pas extrêmement clair sur ce qu'elle va faire dans les prochaines années. Hein. Elle annonce le fait qu'elle va cibler beaucoup plus ses rachats d'actifs de manière à justement éviter les anticipations spéculatives sur les dettes des pays. On voit bien qu'entre les spreads de la France, les spreads du Royaume-Uni, les spreads de l'Italie, on est... Encore une fois, le bon élève. Ça ne durera peut-être pas, mais on est le bon élève. Parce qu'on a fait la démonstration qu'on était capable de faire de la résilience, notamment pendant la crise du Covid. Je rappelle juste un point. Personne n'avait anticipé les 6,5 croissance à la sortie du Covid. Tout le monde avait dit qu'on aurait une crise et un mur et une catastrophe qui n'est pas arrivée du tout.
Mur de la dette qu'on attend régulièrement.
On va supprimer les économistes de ce plateau, on va prendre que des chefs d'entreprise que au moins apportent une...
Je vous rappelle quand même qu'à la sortie de la crise de la Covid, vous aviez reconnu que j'avais annoncé qu'il y aurait une reprise forte.
Mais elle n'a pas duré longtemps. Hein.
Parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine.
C'est vrai.
Mais parfois, quand vous avez raison, on le dit. Quand vous avez tort, on le dit aussi.
Oui, mais donc là, rappelez que j'avais raison, alors qu'il dit qu'on s'était trompé.
Les entreprises vont bien, certaines vont même tellement bien que la taxe sur les super profits se rapproche. On était ce matin avec un député RN qui fait partie de la commission qui disait LFI ne va pas.
Commission d'enquête de l'Assemblée.
Et la commission d'enquête qui disait LFI ne va pas assez loin, il faut aller plus loin. Ça se rapproche quand même, Benaouda, la taxe sur les super profits.
Là encore, les temps changent. Le vice-premier ministre irlandais, qui sont très peu portés sur la surtaxe en la matière, a expliqué que toute taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques serait rétroactive au début de la crise.
Oui.
La crise énergétique, c'est vous dire si même certains qu'on vous soupçonnait peu d'être, d'être tendus vers cet objectif s'engouffrent dans cette tendance. Et puis même...
Et même la BCE.
Même la BCE. Là aussi, une interview qui est publiée ce matin par un quotidien autrichien où Philippe Lane, qui est l'économiste en chef de la BCE, suggère de taxer les hauts revenus et les super profits d'entreprises pour financer les aides aux plus démunis face à l'inflation. Son objectif, ce n'est pas plus de justice sociale ou enfin, dans le sens où on l'entend ici, en France, mais de la sorte, éviter de creuser les déficits publics. C'est ça son inquiétude en tant qu'économiste en chef de la BCE, c'est d'utiliser cette taxation des hauts revenus et
remplir les
compagnies énergétiques pour empêcher que le déficit se creuse.
Alors, qu'en pense l'économiste, notamment spécialiste de la rente?
Je pense qu'effectivement, on change un peu d'approche des problèmes. C'est-à-dire que les déficits sont tels qu'il faut effectivement lutter contre ces déficits. L'équilibre budgétaire doit être un objectif, même s'il paraît relativement lointain et difficilement accessible. Et que jouer uniquement sur les dépenses va retarder. Il faut aussi jouer sur les recettes. Et donc, tout le monde est en train de dire il faut essayer de regarder le volet recettes.
Est-ce que c'est légitime, alors, quand on voit effectivement le résultat de la CGM, tout à l'énergie, on se dit... Bon.
Je pense néanmoins qu'il ne faut pas faire ça de façon brutale et de façon assez irréfléchie. Concrètement, il y a quand même des recettes des gens qui sont plus à même de payer les impôts que d'autres. Donc là, on le fait sur les super-profits des entreprises pétrolières, mais ce n'est pas forcément l'endroit qui est le plus pertinent et le plus intelligent.
Pourquoi ?
Je pense que les pays qui sont en déficit extérieur, lui, il y a des déficits budgétaires, sont aussi des pays où il y a une fringale de consommation. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus ignorer, protéger. Le gouvernement dit que c'est un budget de protection. Il y a un moment où la protection est un mensonge. On ne peut pas donner du revenu aux gens s'il n'y a pas de la production. On ne peut pas donner du revenu aux gens s'il n'y a pas eu un effort de leur part. Et donc, considérer que c'est forcément les riches, les autres, les super profits qui vont payer, c'est tenir un langage, à mon avis, qui est un mensonge.
Ouais, sauf que dans le plan social, quand vous avez les prix de l'énergie qui flambent et de l'alimentaire, c'est difficile d'entendre ce que vous dites, Jean-Marc.
Oui, mais c'est la réalité.
Bon,
c'est...
Benoda.
Après, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, pardon, dans le reste du monde, regarde avec effarement et même avec... effarement et envie en même temps, le fait que l'Union européenne ait pu débourser, c'est une étude de l'Institut Bruegel la semaine dernière, 450 milliards d'euros pour uniquement la crise énergétique. Ce qui montre la force de frappe européenne tout à fait exceptionnelle à l'échelle mondiale.
Éric Delannoy.
Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le débat sur les super-profits est un bon débat. Parce qu'il faut revenir à ce que c'est que les super-profits. Il s'agit pas de s'attaquer aux riches. Il s'agit pas de recommencer la fameuse litanie qu'il faut faire payer ceux qui peuvent payer. Non. Il s'agit de regarder par rapport à une conjoncture comment fonctionne une entreprise, quelle serait la tendance de fonctionnement d'une entreprise. Toutes choses égales par ailleurs. On n'est pas dans des conditions toutes choses égales par ailleurs. Et il n'y a aucune raison qu'il y ait une forme de captation de la valeur par quelques entreprises qui sont bien placées au bon moment par rapport à des situations qu'elles n'ont pas vécues, sur lesquelles leurs investissements n'ont eu aucun impact.
Ouais, c'est vraiment l'effet d'aubaine.
C'est effectivement un effet d'aubaine sur lequel il faut pouvoir le réguler de manière à ce que ça ne devienne pas une taxe durable. Parce que c'est ça que craignent les chefs d'entreprise. C'est que ça devienne une habitude. Alors qu'il faut le remettre dans un contexte extrêmement précis dans lequel, pour des problématiques de justice sociale, de déficit budgétaire, il y a une contribution et qui doit être extrêmement ciblée sur justement quel est le super profit par rapport au fonctionnement normal d'une entreprise qui investit.
Et comment vous définissez l'effet d'aubaine et à quel moment? Pourquoi là, sur les énergéticiens, vous dites il y a un super profit, mais on pourrait dire Netflix, quand ils ont engrangé un chiffre d'affaires très important pendant le confinement parce que tout le monde était chez soi, effet d'aubaine également.
La politique, c'est l'art de se tromper. Hein. Il faut juste connaître les conséquences de ce que l'on fait. Donc je pense que la définition, on n'y arrivera jamais. Si on veut faire une mesure parfaite, on n'y arrivera jamais. Je veux dire, il faut revenir à une forme de sens commun sans mettre en place une usine à gaz. On voit bien que les décrochages qu'il y a par rapport à des tendances sur les profits de certaines entreprises sont objectivement pas normaux au sens de la gestion d'une entreprise.
Petite info, là,
vous avez employé le mot magique, c'est le mot rente. Ouais. Or, il y a rente quand il n'y a pas de concurrence. Or là, il y a concurrence. D'ailleurs, Total baisse ses prix en disant, moi je baisse mes prix, et les concurrents disent...
Disons vous êtes... effet d'aubaine alors.
Il y a un effet d'aubaine, mais il n'y a pas et donc il n'y a pas de super profit.
Puisqu'on parle d'énergie, une petite info quand même. Cette nuit, on nous disait que le gazoduc Nord Stream 2, qui n'est pas encore en service, mais qui était en test et avait des fuites inexpliquées. Là, à l'instant, le gazoduc Nord Stream 1, à son tour, touché par deux fuites en mer Baltique, de sources suédoises et danoises. Bon, je ne sais pas si c'est un hasard, Benahouda.
Pas la réponse, mais en tout état de cause, l'objectif en Russie, c'est de tirer un trait sur ces gazoducs et de penser à Sibérie 1 et Sibérie 2 vers la Chine. Et l'Europe devient une vieille histoire déjà en Russie de ce point de vue-là.